Bonjour, nous sommes le 16 décembre 2016 et c'est l'émission Le National, animée pour vous par Clotilde Seil sur les ondes de Canal M. Je vous rappelle, au cas où vous ne connaîtriez pas l'émission, qu'elle est destinée à vous faire entendre ou réentendre peut-être des segments qui nous semblaient importants dans les émissions régulières et surtout des segments qui nous semblaient aussi très généralistes et qui concernaient absolument tout le monde, d'est en ouest de notre grand pays. Alors, on commence avec les paractualités. C'était le 13 décembre. Je recevais ce jour-là Jessica Cacciottore, qui est chargée de projet pour l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au post-secondaire, c'est-à-dire l'ACEPS. Alors évidemment, on fait le bilan de 3 ans d'action de la table de concertation sur l'employabilité et il sera question de l'importance des partenariats entre les étudiants, les employeurs, les conseillers en orientation pour l'intégration au travail des personnes en situation de handicap. Jessica Cacciottore, bonjour.
Bonjour.
C'est la deuxième fois que maintenant que vous venez, puis à chaque fois vous vous déplacez en studio. Bravo.
Mais ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Mais parce que justement, encore hier, j'en parlais, bon, vous vous déplacez en fauteuil roulant, quand il y a de la neige comme ça, c'est pas évident, hein?
Non, c'est pas évident parce que les transports en commun sont limités.
Exactement. Mais là, vous êtes arrivé, même que vous aviez une heure d'avance, hein, parce que c'est toujours pareil, on ne sait jamais s'ils vont arriver à l'heure ou s'ils vont être en retard. Alors, merci beaucoup d'être là, Jessica. Jessica, je rappelle que vous êtes chargée de projet pour l'ACEPS. Alors, vous allez nous rappeler très brièvement ce qu'est l'ACEPS pour les gens qui ne vous auraient pas entendu la première fois.
Bien sûr. En fait, c'est un organisme de défense des droits et intérêts des étudiants en situation de handicap au niveau post-secondaire. Donc, public et privé. Puis on prend l'inclusion dans les établissements scolaires.
Donc, je vous voyais tout à l'heure hocher la tête en écoutant Mme Larose parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Alors, et vous l'entendiez et je pense que vous étiez bien d'accord avec elle hein, quand vous disiez que c'était important pour tous les élèves de se côtoyer finalement, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis aussi je vous dirais une des problématiques aussi qu'on retrouve au post-secondaire, c'est que les étudiants qui ont un handicap un peu plus caché, un trouble d'apprentissage ou un trouble de santé mentale, n'osent pas mentionner leur handicap et donc n'ont pas accès rapidement aux services d'aide offerts dans les établissements pour les accommodements, pour mieux réussir leurs études. Okay. Et ça reste une problématique là, de ne pas vouloir avoir une étiquette sur soi.
Non, c'est ça. Mais alors, on fait quoi maintenant? Ça fait 3 ans hein, que vous travaillez fort et ça fait 3 ans maintenant qu'il y a, comme une table de concertation, c'est ça, sur l'employabilité. Parlez-nous-en un petit peu.
Oui, en fait, on a une table de concertation en employabilité parce que à la suite des problématiques qu'on a observées chez les étudiants à avoir accès à un stage ou à des expériences professionnelles concrètes, il y a certaines difficultés parce qu'il y a une différence entre le monde des études et le monde professionnel.
Bien sûr.
Et donc, on a décidé de former une table qui a eu lieu en juin 2013, la première table.
Oui.
On a réuni plusieurs organismes en employabilité, instances gouvernementales, conseillers d'orientation, conseillers en emploi, d'aide en emploi, donc pour essayer de trouver des actions concrètes qu'on pourrait faire pour aider ces jeunes-là à penser à leurs expériences professionnelles durant le cursus scolaire et non pas seulement à la fin du cursus scolaire, pour qu'ils soient mieux préparés, en fait.
Oui, oui, je comprends. Je comprends. Et alors, aujourd'hui, vous venez de nous parler, il y a comme une bourse hein, qui existe. Comment ça se passe?
Oui, la bourse, c'est un autre de nos programmes, en fait.
OK, d'accord.
C'est pour encourager les étudiants à poursuivre leurs études et justement à être plus faire de plus d'inclusion au niveau social aussi.
D'accord.
Et c'est aussi une bourse qui aide à pallier un peu les coûts liés au handicap, des fois les matériaux qu'on aurait besoin, je sais pas moi, un logiciel aussi installé sur un ordinateur.
D'accord. Ça veut dire que les étudiants qui présentent des difficultés en post-secondaire peuvent vous contacter directement pour recevoir cette bourse-là?
Comment ça se passe? La bourse pour cette année est terminée le 2
D'accord.
décembre.
OK.
On envoie à tous les conseillers de services d'aide adaptés dans les écoles la procédure à suivre, puis les partages aux étudiants en situation de handicap. Par contre, si la personne ne s'est pas affichée, n'a pas été dans le service d'aide, ne va pas recevoir la publication. Donc, c'est important d'aller soit sur notre site à la CIEPS voir quand est-ce que le programme débute. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il s'affiche éventuellement au service d'aide pour avoir accès à cette bourse.
Je voudrais rappeler, la CIEPS, l'acronyme, c'est AQEIPS, AQEPS. Voilà. Oui. Non, mais c'est important parce qu'il est quand même pas tout court. Hein. Est-ce que vous aviez, parce que je vois que vous êtes venu avec beaucoup de notes, est-ce que vous aviez un message peut-être à apporter en ce moment aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des enfants qui sont en difficulté ou des jeunes qui le sont eux-mêmes?
Oui, en fait, de notre bilan de l'année, on a fait beaucoup de bons coups dans le sens... On a été au colloque des conseillers d'orientation.
D'accord.
Pour donner de la formation aux conseillers d'orientation pour pouvoir encadrer le jeune dans l'évaluation des besoins plus concrète. On a été dans des commissions scolaires, dans des établissements scolaires. Mais lorsque vient le temps de mobiliser les étudiants ou mobiliser les conseillers pour faire des activités en lien avec l'emploi, c'est très, très difficile. Parce que chacun est occupé dans son trait quotidien d'école les tâches de
ben oui,
nécessaires d'un
ben
conseiller.
Mm-hmm.
Et donc, on a très peu de succès lorsqu'on envoie un sondage ou une activité qui sont à l'extérieur de l'établissement scolaire.
Bon.
Donc, aujourd'hui, en fait, notre prochain défi pour l'année, c'est d'essayer d'avoir des partenariats avec des instances plus des directions au niveau des départements de stage, au niveau de direction dans les services adaptés, dans les établissements scolaires, parce que c'est avec les directions qu'on va pouvoir travailler en partenariat puis mobiliser ces jeunes-là aussi.
Pour qu'ils se rendent compte
de l'importance aussi du après les études.
Je comprends.
Pour éviter l'espèce de CV à la page blanche.
Et donc,
pour n'importe qui, quelqu'un qui n'a pas d'expérience en emploi, c'est difficile de trouver un emploi. Mais encore plus pour un étudiant en situation de handicap. Parce que si tu n'as pas d'expérience en emploi, bien, en fait, c'est que tu n'arrives pas à évaluer tes besoins sur le marché du travail parce que ce ne sont pas les mêmes que dans une école où tu es assis, où on prend des notes, on écoute un professeur. Ce n'est pas la même dynamique. Donc, plus tu as de l'expérience, plus tu fais du bénévolat, plus tu fais des petites activités d'intégration sur le marché du travail, durant les études, tu es capable de voir tes besoins, de les mentionner à l'employeur. Quand tu les mentionnes à l'employeur, tu peux lui offrir des solutions. Ça rassure grandement l'employeur, puis on focus plus sur les compétences de la personne.
Bien sûr.
Puis sur les solutions.
Oui.
Donc,
c'est
plus facile à l'employeur d'embaucher dans ce cas-là, un étudiant qui se connaît bien.
Oui, bien sûr. Alors, vous lui apportez des solutions.
Oui, donc
En tout cas, des réponses.
On tend à ça,
Tend à ça, exactement. Oui. Alors, Jessica Cacciotore, chargée de projet pour la CEPS, je vous rappelle. Alors, c'est l'association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire.
Oui, c'est bien ça.
C'est pour ça que ça fait un long acronyme, mais il est important de le connaître, AQEIPS, pour avoir des informations. Jessica, merci.
Et puis, s'il y a des instances qui voudraient participer à notre table de consultation en employabilité,
il faut vous joindre, me
communiquer, c'est moi, en fait, qui ai un peu la courroie de transmission de cette table-là.
Donc, sur le site, on vous trouve facilement, Jessica?
Oui. D'ailleurs, on peut m'écrire à projet avec un S, à commercial, à kieps.qc. .ca.
Donc, projet à commercial, AQEPS, AQEIPS, on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas dit, .qc.ca.
Oui.
Bravo. Parfait. Merci beaucoup, Jessica.
Merci beaucoup.
Prenez soin de vous et on va se revoir de toute façon dans les prochains mois.
Oui, bien, passez un bon temps des fêtes à tous aussi.
Ah, c'est gentil d'y avoir pensé. À vous aussi, Jessica. Voilà, je vous rappelle que c'était dans le cadre des Paractualités du 13 décembre en compagnie de Jessica Cacciotore. À Portrait de famille, le 12 décembre, la venue de Sophie Boisvert, la maman d'Ariel, 11 ans, qui vit avec la neurofibromatose, permettait à Marianne Paquette d'élaborer sur un sujet qui peut être parfois douloureux, en l'occurrence, comment parler de la maladie avec un enfant malade. Et à ce sujet, elle va s'entretenir avec Amélie Benoît, psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine, et on va apprendre comment parler de la maladie avec son enfant.
Amélie Benoît, bonjour.
Oui, bonjour.
Psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine est là pour parler avec nous de comment parler de maladie avec son enfant quand cette maladie concerne justement notre enfant. Et ça arrive un petit peu comme l'illustrait bien Sophie, souvent par une question de l'enfant, j'imagine, Amélie.
Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas de scénario typique pour chaque famille, pour chaque enfant. Ça peut se présenter de différentes façons. Effectivement, des fois, ça peut venir d'une question de l'enfant ou d'une question de l'entourage ou des visites chez le médecin qui, par la force des choses, à un moment donné, on vient qu'à avoir besoin d'en parler. Et en fait, c'est ce qu'on encourage de faire de façon générale, c'est de ne pas cacher, de ne pas éviter d'y aller, en fait, et d'expliquer au mieux nos connaissances, et toujours en étant adapté à l'âge de l'enfant, à ses capacités, à sa compréhension, mais de lui donner certaines explications pour faire un sens, en fait, de qu'est-ce qu'il vit, de ses symptômes, de ses visites chez le médecin, des médicaments qu'il doit prendre. Donc, pour l'aider à mieux se comprendre, en fait.
Oui. Ce qui est important de rappeler, Amélie, c'est que c'est souvent le parent qui est le mieux placé pour le faire.
Oui, effectivement, c'est la personne qui partage la vie quotidienne avec les enfants. Et oui, ça va être le parent qui va souvent recevoir les questions ou les irritations de l'enfant au sujet de sa maladie. Alors oui, ça risque fort probablement d'être le parent le premier interlocuteur à discuter de la maladie.
Je ris, Amélie, parce que Sophie rit des irritations. Il y en a de la part d'Ariel, j'imagine.
Oui, il y a eu des périodes où elle trouvait ça difficile.
Oui. Justement, quand l'enfant trouve difficile, parce qu'on parle, notamment dans le cas de la famille de Sophie, mais dans le cas d'enfants malades, de suivis médicaux qui sont assez étroits, aux 6 mois, parfois davantage. L'enfant peut être irrité, oui, ne pas vouloir aller à ces rendez-vous-là. On accueille ça comment, cette colère ou cette irritation-là, Amélie?
Oui, donc je pense premièrement, faut se dire qu'elle est somme toute normale et même saine en fait, là, parce qu'on s'entend que la maladie, c'est un phénomène qui arrive, qui tombe sur une famille, sur un enfant, c'est juste, on l'a pas souhaité, on doit vivre avec, composer avec. Donc, pour un enfant, de venir à des visites répétées à l'hôpital, de prendre des médications, d'avoir des restrictions dans sa vie courante en raison de sa maladie, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant et qui n'a pas de sens, là. Oui. Et donc, à un moment donné, ça se peut qu'il soit fâché, et même on s'attend à ça, là, et qu'il ne veuille pas participer. C'est une façon pour lui de reprendre un peu de contrôle sur une situation où il n'y en a pas beaucoup, des fois. Alors, je pense qu'il faut être prêt à discuter de ça, ne pas nécessairement réprimander l'enfant, mais quand même avancer à lui faire comprendre la nécessité d'aller voir son médecin et peut-être, tout dépendant de l'âge de l'enfant, mais essayer de lui favoriser ses visites à l'hôpital, que ça soit le plus agréable possible, qu'il y ait peut-être une petite sortie après ou donc pour mettre ça un peu plus positif, puis ouais. Tranquillement, au fur où la jeune vieillit, on peut essayer plus de lui faire comprendre les raisons.
Sophie, on va le dire, là, vous riez depuis tantôt, mais en silence. Qu'est-ce qui se passe, là?
En fait, je souris parce qu'au dernier IRM qu'Ariel a eu, après, on est allé manger parce qu'évidemment, il fallait qu'elle soit à jeun.
Ouais.
Et on est allé manger, elle a mangé une gaufre gigantesque avec des fraises et de la crème fouettée, et du chocolat, et c'était sa récompense, entre guillemets, mais elle avait aussi très faim, là, mais oui, effectivement, on fait toujours souvent une petite sortie spéciale où on essaie.
Oui, ça peut être un moment pour l'enfant d'avoir un temps particulier avec un de ses parents, un petit moment de pause, là, donc de pas juste associer ça sur la visite à l'hôpital, les aspects plus désagréables, mais aussi du temps qu'on peut passer avec son parent.
Mm-hmm. Pour un enfant qui s'exprime moins, qui parle moins de ses craintes, de sa colère, mm-hmm. Amélie, on l'amène comment à communiquer, à sortir ça un peu de lui, là?
Oui. Donc, c'est vrai que les enfants vont, bon, étant donné leur tempérament, leur personnalité différente, vont réagir de façon différente. Il y a des enfants qui en parlent beaucoup, spontanément, dans leur entourage, à leurs enseignants, à leur famille, à leurs amis. D'autres vont plutôt éviter ou même être fâchés des fois quand les parents veulent en parler.
Ouais.
Ça aussi, faut quand même respecter ça, mais je pense que progressivement, il faut que le parent ou les gens de l'entourage, les professionnels soient disponibles et quand même fournissent certaines explications, mais tout en acceptant que l'enfant ne veut peut-être pas en parler plus à l'heure actuelle, mais se montrer disponible et des fois peut-être utiliser d'autres moyens d'en parler, peut-être des livres ou des émissions qui tournent autour de ce thème-là. Des fois, ça peut, en passant par quelqu'un d'autre, des fois ouvrir un peu la possibilité d'échanger sur le sujet. Mais effectivement, il faut suivre le rythme de l'enfant aussi.
Oui. Ariel, elle a 11 ans. C'est un âge un peu charnière où de plus en plus l'enfant prend de l'autonomie, comprend ce qui arrive. Est-ce qu'on on l'encourage à en parler par lui-même, par exemple devant un enseignant, devant un proche de la famille, un voisin, ou on prend le relais, c'est nous qui donne les explications?
En fait, là, je pense qu'il ne faut pas non plus forcer l'enfant à en parler, un enfant qui ne voudrait pas en parler. On peut s'entendre avec lui en lui disant, écoute, ton enseignant doit être au courant, c'est important pour qu'il te comprenne bien et qu'il s'adapte à toi. Donc, toujours lui donner des explications pour donner du sens. Et si l'enfant est à l'aise de le faire, ben pourquoi pas le laisser aller? C'est effectivement une certaine prise d'autonomie et de sentir, bon, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, je suis capable d'en parler, mais chaque enfant peut avoir son rythme là, là-dedans.
Oui.
Je sais même, des fois, il y a des enfants qui vont proposer ou avec le support de l'enseignant de faire des petites présentations en classe sur leurs conditions médicales pour expliquer aux autres d'emblée, là, pour prendre les questions, puis dans le fond, de dédramatiser le contexte.
Et ça peut être une bonne occasion. Tout à fait, puis c'est une façon aussi, vous le disiez tout à l'heure, Amélie Benoît, d'avoir un certain contrôle sur ce que nous arrive. C'est moi qui en parle, j'utilise les mots que je veux, je le fais de la façon dont je le veux. Et c'est une façon de responsabiliser aussi l'enfant à sa maladie. Bon, là, avant que l'on se quitte, je veux qu'on parle de culpabilité. On ne dira pas faire la maudite culpabilité. Ça arrive souvent, ça, quand on est parent. Sophie, ça vous est arrivé, je pense, un petit peu dans ces explications ou ces discussions que vous avez eues avec Ariel. La culpabilité.
Oui, je pense qu'en tant que parent ou en tant que maman, souvent, on sent une culpabilité de pas être assez là, de pas en faire assez, de vouloir... moi, je suis très, très au-devant d'elle, peut-être trop, des fois. Je veux prévenir des choses, mais il y a une culpabilité parce que ça reste... Ça reste des gènes, ça reste... Oui, tout à fait.
C'est sûrement pas la première fois qu'on vous pose la question, Amélie. Qu'est-ce qu'on dit à des parents qui se sentent coupables?
Bien, je pense que, comme Mme Boisvert l'illustre, c'est assez fréquent. Bon, pour bien des parents, là, dans la vie de parents en général, mais particulièrement quand l'enfant a une maladie, qu'il y a une composante génétique ou non, c'est sûr qu'en tant que parent, on veut faire le maximum pour notre enfant. Donc, je pense que ça, c'est bien normal, cette culpabilité-là. Il faut un peu l'accepter qu'elle fait partie du processus et qu'elle peut fluctuer dans le temps aussi selon les situations de vie là, et l'évolution des symptômes. Alors, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, s'observer, se voir aller, puis pas hésiter à aller chercher du support pour nous-mêmes, que ce soit par l'entourage, les groupes de parents ou même un professionnel, là, psychologue au besoin. Il faut vraiment pas hésiter parce que c'est lourd là, pour les parents de porter leur vécu par rapport à la maladie de leur enfant, puis supporter leur enfant aussi dans tout ça. Alors, faut qu'ils puissent se ménager aussi puis avoir de l'espace pour eux là-dedans.
Oui. En parler et en terminant, en parler à l'enfant aussi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à exprimer nos peurs ou notre douleur, là, notre souffrance à notre enfant?
Bien, je pense que dans ça, oui, effectivement, mais avec dosage, donc, ouais. Donc de si on se sent très submergé par toutes sortes d'émotions, d'inquiétudes, je pense qu'il vaut mieux avant tout prendre soin de ça pour soi-même pour être en mesure d'en parler après plus librement avec son enfant. Mais je pense que des fois, quand il y a des situations un peu plus intenses, que notre enfant est témoin, mais de mettre des mots là-dessus, de lui expliquer sans donner tous les détails, mais ça peut être correct aussi là, de lui expliquer que bon, maman et papa ont été stressés pendant le rendez-vous chez le médecin, il y avait beaucoup de questions, hein, t'as vu ça. Donc, je donne un exemple comme ça, là, mais de mettre des mots là, sur, ouais. Sur ce qui s'est passé, oui, mais en dosant, effectivement. Là.
Et ça encourage l'enfant, éventuellement, à lui aussi s'ouvrir et à trouver les mots pour exprimer que ce soit sa colère ou sa tristesse. Amélie Benoît, ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Vous êtes psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et après le sujet douloureux, peut-être un sujet un peu plus léger, je dirais, manger en famille. Oui, c'est très, très agréable, mais c'est aussi très important pour le développement des enfants. Mylène Brochu-Duplessis, nutritionniste à la Fondation Holo, nous explique et surtout explique à Marianne Paquette l'importance des repas pris en famille.
Bonjour Mylène.
Bonjour.
Merci d'être là, Mylène Brochu-Duplessis, nutritionniste à la Fondation Holo. Qui est un mois important pour vous, pour votre organisation, Mylène, le mois de la famille
oui,
chez Holo.
Oui, en effet. Donc, c'est le mois qu'on veut justement, là, qu'on veut rassembleur, étant donné qu'on est le mois de décembre avec la famille, Noël, tout ça. Donc, on s'est dit pourquoi pas.
Oui, oui, il y a une vidéo YouTube, d'ailleurs, qui a été créée chez vous, qui met en vedette des mamans qui bénéficient de vos services chez Holo. Bien, on va la partager, bien sûr, ici au Canal M. On est ensemble, Mylène, pour parler de l'importance des repas partagés en famille. C'est une valeur qui est importante pour la famille de Sophie. Et de toute façon, on trouve que c'est important aussi d'en parler. Parfois, c'est un peu oublié, ça, hein, parce que ça va tellement vite, nos rythmes effrénés, travail... métro, bon, responsabilité, activité parascolaire, tout ça. Le temps de se réunir, c'est précieux et ça a des impacts pour les enfants aussi.
Oui, tout à fait. En fait, la raison principale pour pourquoi manger en famille, bien, c'est d'abord et avant tout parce que c'est agréable, parce que c'est plaisant.
Ouais.
Mais il y a effectivement des études qui ont démontré qu'il y a beaucoup d'impacts positifs sur le développement des enfants. Que ce soit au niveau de la saine alimentation, donc plus de consommation d'aliments de grains entiers, de fruits et de légumes, moins d'aliments frits aussi. Il y a aussi des bénéfices sur la cohésion familiale, donc on transmet davantage les valeurs familiales, ce qui est positif aussi, mais aussi au niveau du développement, que ce soit langagier, cognitif, parce que ça crée des moments importants là, d'échange. Donc, c'est très positif sur le développement de l'enfant et c'est, entre autres, une des raisons pourquoi... À la Fondation Holo, on trouvait que c'est un comportement très important. Donc, c'est un de nos trois principaux comportements clés là, qu'on met de l'avant pour développer les enfants en santé.
Oui. Il y a tout un côté aussi peut-être plus psychologique. C'est-à-dire, bon, je pense bien sûr à la prévention des troubles alimentaires. J'imagine que...
Ça en fait partie,
oui, hein?
Effectivement. Oui, oui.
Mais aussi, si l'enfant a vécu une difficulté à l'école, c'est un moment où il peut en parler. Il sait que... papa ou maman est attentif à ce moment-là, mais encore là, il ne faut pas qu'il y ait d'écran.
Non, effectivement, il y a un contexte qui doit être mis en place pour favoriser les repas en famille. Puis on ne peut pas décider du jour au lendemain, bon, bien, à partir de maintenant, on mange tous nos repas en famille, ça ne se fera pas comme ça. Si on a l'habitude d'écouter la télévision, effectivement, c'est une habitude à casser pour justement profiter de ces moments d'échange-là qui sont très précieux là, pour le développement de l'enfant.
Est-ce qu'il y a un truc concret pour, surtout avec des ados, pré-ados, là, je pense à Ariel qui a 11 ans, là, on est vraiment dans cette période-là. Bon, ça passe par l'exemple, là, j'imagine, nous-mêmes, téléphone intelligent, télévision fermée, mais est-ce qu'il y a une façon aussi de dire à notre pré-ado, notre ado, OK, là l'écran pendant qu'on mange, on met ça de côté?
Oui, bien, en effet, c'est sûr que les parents sont des exemples énormes autour de la table, que ce soit justement pour est-ce que je fais d'autres choses, est-ce que je suis en train de lire mes courriels, est-ce que je suis en train de regarder mon cellulaire ou de parler au téléphone. Donc, d'abord et avant tout, les parents doivent mettre ça de côté. Et c'est sûr aussi que c'est des habitudes qui doivent être mises en place. Donc, si du jour au lendemain, justement, comme je le mentionnais tout à l'heure, on décide que le repas en famille devienne valeur, ça peut être surprenant pour les ados. Donc, l'idéal, c'est de le commencer très jeune, là. Puis nous, on intervient là, auprès des enfants là, de moins de 2 ans, puis on dit déjà là, c'est important d'impliquer les enfants dans autour de la table. Mais c'est sûr que c'est ça. Les parents doivent jouer un rôle de modèle important. Donc, manger avec les enfants, ne pas avoir de distractions, et de s'écouter aussi à travers ça. Là. Donc, tout le monde a la place pour discuter autour de la table.
Et de cuisiner aussi, hein? Ça fait partie du processus, la préparation du repas.
Mais c'est ça, en fait, souvent on va penser au repas en famille, bien, c'est juste le moment autour de la table, mais il y a tout ce qu'il y a avant ça aussi, même la planification des repas, parce qu'en planifiant d'avance, bien, ça diminue le stress. Donc, ça fait en sorte que les parents vont peut-être être plus à l'aise de consacrer un moment là, où tout le monde peut être tranquille, avoir le repas en même temps et manger tranquillement.
Oui. On disait, si à la base, manger en famille, c'est pas dans vos valeurs ou dans votre routine déjà établie de commencer du jour au lendemain, ça peut être un peu brusque. Comment on se donne des objectifs réalistes, Mylène?
Bien, c'est sûr que c'est de partir de où on est actuellement. Est-ce qu'il y a déjà des repas en famille? Si oui, bien, tant mieux, on va en profiter, on va les optimiser. Et même s'il y en a déjà quelques-uns, mais peut-être que c'est d'y aller progressivement en se mettant des objectifs réalistes. Donc, peut-être qu'un de plus par semaine, ça peut être déjà un gros défi, étant donné que souvent, les familles ont beaucoup de contraintes. On parlait de contraintes de temps, peut-être d'activités aussi parascolaires. Donc, c'est de prendre en considération tout ça. Faut prendre en considération aussi qu'il n'y a pas seulement 7 repas dans la semaine. Il y a aussi les déjeuners.
Oui,
les déjeuners
oui,
ça peut être un moment particulier là, pour qu'on peut prendre du temps pour discuter ensemble, même si des fois, on est un peu à la presse. De prendre un petit 10 minutes quand même, ça peut être intéressant.
Ou le week-end.
Oui, tout à fait.
De dire, OK, ben la semaine, on ne peut pas, on est trop précipité, mais la fin de semaine, ce sont nos moments, ils sont précieux. Vous cuisinez un petit peu avec Ariel, Sophie, rapidement?
Oui, surtout les desserts.
Mylène Brochu-Duplessis, nutritionniste à la Fondation Holo.ca. Merci beaucoup.
Merci.
Oui, c'est important de manger en famille. Et puis, fermons donc la télévision et nos téléphones et nos iPads et tout ça. Parlons-nous. Voilà, les yeux dans les yeux. Merci beaucoup à Marianne Paquette et à l'émission qu'elle anime pour vous, pour nous. Portrait de famille, ici, sur les ondes de Canal M. Restez des nôtres, l'émission Le National se poursuit avec Clotilde Seille au micro dans quelques minutes. C'est la deuxième partie. C'est toujours Clotilde Seille qui vous accompagne en ce vendredi pour vous représenter des segments importants d'émissions passées. Par exemple, le 12 décembre dernier, Benoît Racette s'entretenait avec Yves Briand, qui est le père d'un adulte avec une déficience intellectuelle légère et qui est membre du CA de Rêve à nous. Alors, avec Yves Briand, Benoît Racette va parler de logements abordables pour l'autonomie de ces adultes.
Rêve à nous, ça évoque des rêves, mais surtout le rêve d'autonomie, bien choisi donc comme nom d'organisation pour celle qui veut favoriser l'intégration des adultes qui ont une déficience intellectuelle, pour nous faire part du dernier projet fort inspirant de l'organisme Rêve à nous. Yves Briand, membre du conseil d'administration de Rêve à nous, est avec nous. Bonjour.
Bonjour Benoît.
Merci d'être là pour témoigner de très bel édifice d'un projet qui a vu le jour récemment. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce nouvel immeuble tout juste ouvert là, dans Antic Quartier-Ville?
En fait, la particularité de l'édifice en question, c'est qu'on regroupe 3 types de clientèle à l'intérieur même de l'édifice, à savoir des adultes qui présentent un diagnostic de déficience intellectuelle légère, des gens à mobilité réduite et une clientèle de 55 ans et plus. Autonome, bien entendu.
Ouais.
Donc, ces gens-là cohabitent dans le même édifice de 79 logements. Et il y a une très belle entente entre tous ces gens-là.
Ah, c'est magnifique. Puis en plus, c'est rare à Montréal, les logements qui sont accessibles hein, pour les personnes à mobilité réduite. Il y a autre chose aussi qui est important. Ce sont des logements abordables.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était un des objectifs, la mission, dans le fond, de Rêve à nous, c'était d'offrir à des gens qui ont un loyer modique, un revenu modique, pardon, des logements abordables. D'ailleurs, 52 des 79 logements du complexe appartiennent à un organisme, en fait, appartiennent
à l'organisme
Rêve à nous et bénéficient de subventions de la Société d'habitation du Québec pour s'assurer que ces gens-là ne paient jamais plus que 25 % de leurs revenus pour le loyer.
Oui, donc c'est vraiment des places subventionnées, là.
Tout à fait subventionnées. Mm. Ça permet quand même à 52 personnes de bénéficier de subventions.
C'est excellent.
Très, très bien accueilli. Ben, et la demande, d'ailleurs, était très forte pour ce genre de logement-là. Malheureusement, on était dans l'impossibilité de répondre à la demande de tout le monde.
Ben ouais.
Mais on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait.
Vous avez déjà une liste d'attente, c'est ça que vous
avez dit? On a déjà une liste d'attente pour les gens de 55 ans et plus. On a une liste d'attente également pour les gens à mobilité réduite. Mm-hmm. Et on a une liste très importante de gens qui présentent une déficience intellectuelle légère. Il y a déjà 72 noms encore sur la liste. Mm. Donc, le travail n'est pas fini pour nous.
J'aimerais vous poser comme question maintenant, pourquoi vous êtes impliqué dans ce projet-là spécifiquement?
Bien, au départ, c'est que mon épouse et moi, on a un garçon qui est déficient intellectuel léger.
Mm-hmm.
Comme tout parent qui a un jeune déficient intellectuel léger, on se préoccupe de son avenir.
Ouais.
On se dit, quand on sera plus là, qu'est-ce qui va arriver avec le jeune? Donc, pour nous, on avait déjà entendu parler dès 2006 de Rêve à nous.
Mm.
On avait déjà inscrit notre enfant sur la liste d'attente pour qu'il puisse obtenir un logement à prix abordable et qu'il obtienne aussi du soutien à domicile.
Mm.
Et on a espéré pendant longtemps que le projet se réalise, parce que le projet a pris quand même 10 ans avant de se réaliser, et qu'on puisse à un moment donné dire « OK, mission accomplie, notre jeune vit de façon autonome
ouais. ».
Et a les services nécessaires pour assurer son avenir.
Ça vous prend par le cœur, ce projet-là. Je vous vois ému.
Oui, beaucoup.
Ouais, ouais. Est-ce que vous auriez imaginé que c'était possible de pouvoir voir votre fils autonome dans son appartement qui est accommodique?
Oui, on pensait que oui, qu'il serait en mesure de le faire
ouais.
parce qu'on trouvait quand même qu'il se débrouillait relativement bien. D'ailleurs, il se débrouille bien dans la vie, même sans support. Il réalise des choses que même des fois, on est surpris de voir jusqu'à quel point ces adultes-là peuvent être autonomes et être capables de réaliser des choses importantes dans la vie. On a peut-être tendance des fois à trop les protéger.
Les couver, peut-être.
Les couver énormément, ce qui n'est pas une bonne chose à faire.
Mm.
Et plutôt leur lancer des défis. Puis on est agréablement surpris. D'ailleurs, notre garçon vit depuis 2 ans maintenant dans son appartement. Il est très heureux. Il a sa gang parce qu'il y en a quand même 25 comme lui qui habitent la résidence. Fait qu'il y a son groupe d'amis. Ils ont leurs activités ensemble. Il fait partie d'une troupe de théâtre.
Mon Dieu, oui.
Oui, il a même participé à la série Ma gang de malades qui était...
Ah, c'est un des comédiens de
Ma gang de malades.
Ma gang de malades,
produit par K.O. TV.
Oui, oui.
Puis ils sont venus le chercher justement parce qu'il était dans une troupe de théâtre, puis ils cherchaient des gens, puis ils l'ont sélectionné. Puis, fait,
ça doit être un joueur de tour, donc.
un petit peu. C'est sûr, c'est un bon vivant, là. Il est agréable, vraiment agréable à vivre.
Mm.
Puis... il est à l'aise avec ça,
ben,
ce genre d'activité-là.
Je suis touché de voir, en fait, vous portez une belle admiration pour votre fils. Il faudrait qu'il y ait plus de regards comme vous, des regards de fierté, puis qui veulent donner l'autonomie à ces personnes.
Bien, il y en a beaucoup. Puis ce qu'on fait, entre autres, à Rêve à nous, c'est qu'on a des ateliers qui sont organisés, justement, d'autonomie, qui sont non seulement pour les jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle, mais également pour les parents, pour justement les réveiller face à ça, aux besoins d'autonomie de ces jeunes-là, et de leur faire prendre conscience que, justement, il faut leur permettre de réaliser leurs rêves et arrêter peut-être de les couver davantage. Puis aussi également permettre à ces jeunes-là de prendre conscience du travail nécessaire pour réussir à vivre en appartement de façon autonome.
Mmh.
Fait que c'est un long cheminement, mais on offre également ce genre d'outils-là pour les aider.
OK. Donc, pour certaines personnes, en tout cas pour les personnes qui ont déficience intellectuelle, Rêve à nous est là pour offrir des services dans les résidences.
Oui.
Même si c'est un appartement où ils sont autonomes, là, ils ne sont pas supervisés là, à 100%, ils sont là de manière autonome.
Oui, ils sont à la base, ils sont autonomes.
OK.
Il y a quand même un intervenant qui, à l'occasion, peut venir vérifier, s'assurer que tout fonctionne bien. Tout dépendant des besoins de chacun. Bien, c'est sûr que dans le temps, la fréquence peut être différente d'un à l'autre.
Ouais.
Mais ils peuvent compter sur quelqu'un qui, s'ils sont mal pris, plutôt que d'appeler papa puis maman, bien, ils appellent l'intervenant. Puis c'est le but visé, là,
ouais.
Pour couper finalement le cordon ombilical une fois pour toutes, puis qu'ils fassent leur vie, puis au besoin qu'il y ait quelqu'un qui va les aider.
Bien, en fait, vous avez fait plus qu'un cadeau de père. Là. Vous avez contribué à ce que plein de gens comme votre fils gagne cette autonomie-là grâce à ce projet-là dans lequel
vous êtes impliqué. Inévitablement, par la force des choses, à partir de 2006, on s'intéressait à l'organisme.
Est-ce que c'est un modèle, vous pensez, par exemple? Je sais que vous êtes là depuis 2006 à Rêve à nous, mais est-ce que vous trouvez que c'est un modèle, ce type de maison-là? Il devrait en avoir d'autres?
Absolument, absolument. D'ailleurs, on espère de tout cœur de pouvoir en réaliser un deuxième, un troisième, un quatrième. La demande est tellement importante. Puis à chaque fois qu'on rencontre des parents, les parents nous disent « Mon Dieu, dépêchez-vous, faites-en d'autres. Il y a tellement de besoins. On a tellement hâte de pouvoir bénéficier de ces services-là. On dit, écoutez, on fait notre possible. »
Mais surtout que c'est quand même une alternative beaucoup plus intéressante que quelque chose comme un CHSLD ou un milieu plus fermé. Là. Les gens peuvent faire les choix que tout humain a envie de faire dans sa vie.
Oui, parce que c'est une vie normale qu'ils mènent.
Ouais.
Ils sont vraiment dans une résidence. C'est pas un ghetto. Pas du tout. Là. Ils vivent avec des gens qui ont mobilité réduite, donc ils sont confrontés à la réalité de la vie. Là.
Ouais.
Et avec des gens de 55 ans et plus, là. Fait qu'ils sont dans un milieu où ils développent leur autonomie. Ils sont vraiment intégrés dans un milieu de gens et de cultures différentes, d'ailleurs, parce que les résidents sont de cultures différentes.
Ça a l'air que vos potlucks sont très populaires.
Les potlucks sont très populaires, entre autres. Les gens découvrent plein de plats très intéressants.
Bon, au moins, mangeons ensemble. Donc, pour plus d'informations sur le porteur de ce rêve d'inclusion, rendez-vous sur le site rêveanou.org. Ça, c'est le site de l'organisme qui porte le projet. Merci beaucoup, Yves Briand, membre du conseil d'administration de Rêve à nous.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Au plaisir.
Toujours intéressant de savoir qu'il y a des logements abordables pour l'intégration des adultes ayant une déficience intellectuelle légère à Montréal, comme ce projet, le projet Rêve à nous, dont nous parlait à l'instant Yves Briand dans le cadre de l'émission Accès libre. Des livres plein les oreilles maintenant. C'était le 15 décembre dernier. Je recevais le scénariste et auteur de romans et séries policières et surtout séries noires, Patrick Senecal. Et Patrick Senecal, c'est un ange. Il est exactement tout le contraire de ses romans. Il est enjoué, il est drôle. On parle du livre qui s'appelle Faim, F-A-I-M-S, qui est disponible au SQLA, bien sûr, et à l'extérieur du Québec via le CAEB, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Ah! Réécoutons cet ange. Alors, Patrick Senecal, voilà, c'est vraiment ce que je disais, la table est mise.
Mais oui, mais oui.
Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, dans le couloir, tous les gens que j'ai reçus assez récemment, dont Catherine Perrin, tout ça, quand je leur ai dit que vous alliez venir, Catherine était tellement enthousiaste, elle m'a dit « Ah, oh, tu vas voir, c'est un type charmant, puis il est drôle, puis il est sympathique, puis il est fantastique. »
Je l'avais payé.
D'accord. Oui. Mais moi, je me disais, du coup, la première question, elle est comme venue à moi, c'est... Êtes-vous plutôt Dr. Jekyll ou plutôt Mr. Hyde?
Ah, ben dans la vraie vie, si un Jekyll et un Hyde en moi, c'est l'écriture qui départage.
Qui prend...
Parce que dans la vraie vie, je ne suis pas quelqu'un qui change de personnalité, mais quand j'écris, oui, tout mon côté sombre, effectivement, est dans mes livres. Et je pense que c'est pour ça que dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui aime avoir du plaisir, qui aime... qui est quelqu'un qui se prend pas la tête, tout ça. Je suis pas un angoissé. Ma blonde est psychologue, hein? Alors, elle est assez étonnée de voir à quel point je ne suis pas un angoissé. Quelqu'un d'excessif, oui, tout ça, mais angoissé, non, pas vraiment. Et elle, elle est convaincue que, justement, mon côté noir, mes angoisses, ben je les projette dans mes livres, finalement.
Oui.
Ouais, donc, il y a peut-être un truc thérapeutique là-dedans.
Peut-être, parce que moi, je me disais, voyons, quel pourrait être le parcours d'un individu pour en arriver, bon, d'une part, à être auteur, mais... surtout aussi à être auteur
de ce genre-là.
Oui. C'est-à-dire, on s'entend, ce sont des livres, on est plus que dans le polar, on est presque dans le gore, parfois.
Oui, parfois du gore, parfois du surnaturel.
Parfois de l'angoisse, c'est ça, surnaturel.
Du roman noir, moi je résume ça en du roman noir. Je dirais que c'est toutes les facettes du roman noir, en fait.
Alors, je vais faire une psy de moi-même. Comment c'était votre enfance, mon petit Patrick Sonnecal?
Eh bien, croyez-le ou non, mon enfance était tout à fait très, très normale. J'ai pas eu d'enfance malheureuse. Au contraire, j'ai eu des parents très aimants qui m'aiment encore d'ailleurs et qui sont... J'ai peut-être vraiment une ville, une petite ville tranquille. À l'école, ça allait bien. Alors, j'ai pas vraiment... Non. Je peux pas dire que j'ai pris ça dans mon enfance. Mais en fait, comme j'avais une vie très, très belle, peut-être justement que j'allais découvrir des trucs plus sombres dans mes écrits. Parce que déjà, quand j'avais 11-12 ans, j'écrivais des histoires comme ça.
C'est ça, hein? Ouais, ouais. Vous aviez même écrit un petit truc de 50 pages, La Vengeance.
Oui, qu'on a publié une cinquantaine d'exemplaires au cégep de Drummondville. C'est pas très bon, c'est un premier roman, évidemment, faut être indulgent. Mais oui, déjà, à cet âge-là, j'écrivais des trucs assez de l'horreur, là, des fantômes, des esprits, des démons, des trucs
Et
comme
vos
ça.
Parents vous lisent?
Maintenant, oui. À l'époque, mon père me lisait, tu vois ça rigolo. Ma mère, elle ne me lisait pas, elle n'avait pas le temps. Hein? Une vraie femme de sa génération qui s'occupe de tout à la maison et qui n'a pas le temps. En plus, elle travaillait. Alors, mais aujourd'hui, ils me lisent tous les deux, ils sont très, très fiers. Et c'est très curieux parce que ma mère, normalement, ne lirait jamais ce genre de roman-là. Elle le fait parce que c'est son fils, évidemment. Sinon, elle dirait, c'est épouvantable d'écrire des affaires comme ça. Mais comme je suis son fils, la seule réaction qu'elle a quand elle lit mes romans, elle dit, oh, tout ça a cru Patrick, hein? Et qu'il y a de l'imagination. C'est sa réaction spontanée, ça me fait toujours bien rire. Mais oui, ils me suivent, c'est vraiment des vrais, vrais fans.
Des fans, des fans de Patrick Sonnecal. Et je me demandais, bon, les scènes difficiles, parce qu'il y en a qui sont vraiment... Oui. Ben, pas dans le dernier, je trouve que on est plus dans le psychologique. Ouais. Mais c'est pas vrai que j'en ai pas lu un. J'ai lu Le Vide, j'ai lu quand même...
Le Vide, il y a des scènes très, très, très dures.
Il y a des scènes vraiment très difficiles. Je me dis, ces scènes-là, vous y pensez longtemps à l'avance? Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez, que vous développez? Vous me dites, je pourrais peut-être imaginer ça. Oula, est-ce que je vais trop loin?
C'est-à-dire que dans mon plan, moi, je fais toujours un plan dans mes romans. Je sais à quel moment telle personne va mourir ou tel moment il va y avoir de la violence. Bien, je ne la développe pas tout de suite. Je me laisse le plaisir ou la surprise de dire, bon, OK, là, lui, il doit mourir ou elle doit mourir. Comment ça va arriver? Oui. Et je vais y penser peut-être une ou deux journées avant que cette scène-là arrive dans le roman. Mais pas des semaines et des mois à l'avance. Je sais qui va mourir et pourquoi, mais le moyen, je me laisse moi-même le plaisir de découvrir.
Au fil de la plume, même, parfois.
Oui, tout à fait. Oui, parce que ces scènes-là, souvent, pendant que j'écris, c'est bon, il y a un effet d'entraînement. Et en fait, c'est toujours même... Le danger, quand j'écris ces scènes-là, c'est de toujours en vouloir en mettre plus et d'en mettre trop. Parce que la violence, c'est facile d'en mettre beaucoup. Alors, quand je me revise, quand je fais mon deuxième geste, souvent, j'en enlève un peu. Pas pour des raisons de censure, mais pour des raisons de cohérence, pour des raisons de...
Faut que ça reste vraisemblable?
Faut que ça reste vraisemblable, pour pas tomber dans le grotesque. C'est très facile d'être dans le grotesque avec la violence. Alors, j'en enlève toujours un peu pour ça. Parce que la surenchère dans la violence, c'est un piège qui c'est facile de tomber dans ce genre de piège.
Et est-ce que, une fois qu'elles sont écrites, est-ce qu'elles vous hantent?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est écrit, c'est écrit.
Alors, moi, je suis très, très conscient que j'écris des romans, de la fiction. Je ne suis pas du tout le genre d'auteur qui va pleurer quand ses personnages meurent ou qui va... non, il y en a comme ça.
Heureusement.
Mais non, moi, je suis très, très détaché. Pendant que je l'écris, je suis attaché. J'essaie de m'imaginer comment le personnage devrait réagir. Mais je suis toujours conscient que je suis en train de faire de la broderie, que tout ça doit être efficace, qu'il faut que ce soit cohérent, qu'il faut, qu'il faut que le rythme soit bon. Alors, quand j'ai terminé d'écrire, je peux y repenser pour des raisons de bon, est-ce que j'ai bien fait ça? Mais d'être hanté par mes personnages, d'être hanté par cet univers-là, absolument pas.
Non. Non, quand même, je suis peut-être allé un peu loin, là. La mare de sang était bien. C'était bien.
Oui, mais si j'y pense comme ça, ça va être pour des raisons justement romanesques, raisons éthiques. Ça va être vraiment pour. C'est l'artisan qui est au travail et qui se demande est-ce que j'ai bien sculpté mon truc, là. C'est vraiment. C'est très technique. C'est ça, c'est de la technique.
Est-ce que vous vous surprenez vous-même?
Oui, des fois. Ça arrive que j'écris des scènes que je me dis, mon Dieu, comment c'est que j'ai pensé à une affaire de même? Et ça me fait rire en général. Quand je m'étonne, je suis pas inquiet, je trouve ça drôle. Vous savez, la part des auteurs que je connais qui écrivent de l'horreur ou des romans noirs, quand ils arrivent à leur scène et qu'ils trouvent des bonnes idées de scènes violentes, ils sont très amusés. Ça les amuse beaucoup. Ils trouvent ça très drôle. C'est peut-être une défense, c'est peut-être...
Oui.
Mais ça a beaucoup... Et quand on s'en parle entre nous, hey, moi j'ai pensé à une idée, là, puis on se raconte ça, on trouve ça très rigolo. En général. C'est très rare qu'on se trouve inquiétant entre nous. On se trouve très drôle, en fait.
Ouais. Et est-ce que vous pourriez écrire une histoire d'amour?
Je ne sais pas. Je crois pas. Je crois pas parce que... En fait, on ne sait jamais ce qu'on va écrire. J'ai déjà écrit des trucs que j'aurais jamais cru écrire un jour. J'ai écrit deux romans pour enfants alors que j'étais convaincu que je serais incapable de faire ça. J'ai écrit aussi un roman qui s'appelle 15 minutes qui n'a rien à voir avec l'horreur, où il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sens. C'est vraiment différent. Mais une histoire d'amour, purement une histoire d'amour, là, dont l'intrigue serait vraiment une romance, c'est pas facile d'écrire une histoire d'amour intéressante parce que l'amour, c'est quelque chose qui est le fun à vivre, mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement le fun à raconter.
Et pourtant.
Et il y en a eu des très bons, mais il y en a beaucoup dans.
Oui.
Si je peux me permettre, il y a beaucoup d'histoires d'amour emmerdantes, à mon avis.
Oui.
Mais on peut pas tous écrire Cyrano de Bergerac. Hein. Pour moi, c'est le sommet de l'histoire d'amour. Moi, cette histoire-là me fait pleurer à chaque fois que je la lis. Mais parce que pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un drame. Il faut qu'il se passe quelque chose. S'il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'histoire. Hein.
Sinon, c'est clair.
Alors, un drame dans une histoire d'amour, sans tomber dans le cliché, c'est possible, mais je ne suis pas sûr que j'aurais ce talent-là. D'écrire une bonne histoire d'amour, c'est pas facile et je pense pas que mon imaginaire se tournerait assez volontiers dans cette direction-là. Mais il ne faut jamais dire jamais. Hein.
Patrick Seneca, acceptez-vous de faire un petit, enfin de vous livrer un espèce de petit jeu parce que je pense que quasiment tous vos romans ont été et livres, en tout cas vos séries ont été enregistrés.
Ben oui, je serais flatté de ça.
Ben oui, et alors je me disais, pour les gens qui, comme moi, n'ont sûrement pas tout lu,
ben
moi j'ai envie qu'on leur donne l'envie d'en lire le plus possible. Alors je vais vous citer quelques titres, mais le jeu c'est que je vais vous donner 15 secondes à peu près
pour
nous dire l'essentiel.
D'accord.
Pourquoi est-ce qu'on devrait aller chercher
ça? Speed dating littéraire.
Yes!
C'est ça.
Alors, Alice, on peut dire en dehors des 15 quand même secondes qu'on peut dire un petit peu ce que c'est. Je veux dire que c'est le côté trash d'Alice au Pays des Merveilles.
Ah oui, ben, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment c'est le meilleur pitch de vente de ce roman-là. C'est c'est une version trash d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, une fille de 18 ans qui veut plus habiter chez ses parents et qui va découvrir un quartier parallèle à Montréal où il se passe de très drôles de choses. Mais en même temps, c'est une adolescente qui devient adulte. C'est un peu ça l'idée.
Contre Dieu.
Contre Dieu, c'est une chute dans le désespoir. C'est un homme qui a tout perdu, sa femme et ses enfants, dans un accident d'auto et qui, par désespoir, va décider que la vie n'a pas de sens et qui va donc défier le hasard tout le temps en se disant que de toute façon, que le pire arrive ou non, nous n'avons le contrôle sur rien. Donc, c'est une espèce de lent suicide inconscient.
Hell.com.
Hell.com, c'est considéré comme mon plus dur par beaucoup de gens. C'est un roman, c'est un site illégal qui s'appelle Hell.com. Ça coûte 500 000 $ par année à être membre, donc c'est pas pour tout le monde. Et une fois que tu es membre de ce site, tout est possible. Esclaves sexuels, drogue, tueurs à gages, torture. C'est vraiment épouvantable. Mais en même temps, il y a une rédemption dans ce roman-là. Alors voilà.
La série Malface, est-ce que c'est considéré pour les jeunes, ça?
Ben, c'est-à-dire que non, moi, aucun de mes romans est considéré pour les jeunes, à part mes deux romans pour enfants, mais beaucoup d'ados me lisent quand même, parce que moi, ado, je lisais Stephen King, par exemple, ce qui est assez normal.
Mais oui,
ça se passe dans un cégep, c'est pour ça qu'il y en a qui croient que c'est pour jeunes, mais c'est assez trash aussi. Mm-hmm. Et c'est de l'humour noir. Alors, c'est de l'horreur, il y a du sang, mais c'est drôle aussi. Alors, les gens qui ont peur de me lire parce qu'ils ont peur d'avoir peur, ben Malface, c'est peut-être un côté plus humoristique, même s'il y a des meurtres en masse.
Voilà. Merci. Le passager.
Le passager, c'est mon plus soft. Lui, c'est une bonne introduction.
Notez bien ça.
Oui, une bonne introduction à mon genre. Alors, c'est un gars qui embarque un gars qui fait du pouce deux fois par semaine. Il l'embarque avec lui. Il se rend compte qu'il a peut-être embarqué un psychopathe, finalement. Alors, il y a une relation malsaine qui se développe entre les deux.
Mon Dieu, et c'est ce qu'il y a de plus soft.
Oui, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de sang.
Non, c'est ça, oui, d'accord. Alors, 7 comme 7 heures, ça, c'en est un pour la jeunesse.
Oui,
hein,
c'est un de mes deux romans pour enfants. Alors, ça commence que Nat, le petit garçon de 8 ans, se fait kidnapper par le Père Noël. Le Père Noël est devenu méchant. La fée des dents est devenue méchante et le lapin de Pâques aussi. On se demande pourquoi. Et c'est peut-être la faute du bonhomme 7 heures qui, finalement, ne serait pas une légende. Voilà.
Excellent. Il y a aussi... tenez, puisqu'on est avec les enfants, il y en a un autre.
Oui,
c'est ça.
Comment
Madame
Moinam.
Voilà, c'est ça.
Madame
exactement.
Madame Moinam, c'est un professeur qui est remplacé le professeur habituel.
Oui.
Et on se rend compte que c'est peut-être une sorcière qui est obsédée par leur performance et qui refuse que ses étudiants fassent la moindre erreur.
Il fait bien ça en 15 secondes, hein, quand même. Bon, les 7 jours du Talion.
Oui, histoire.
On connaît un peu plus.
Oui, il y a eu le film, évidemment. Alors, c'est un père qui décide de se venger. Il capture l'assassin de sa fille. Il décide de le torturer pendant une semaine pour se venger. Mais il se rend compte que finalement, tout ça n'a peut-être pas de sens. Donc, c'est une réflexion aussi sur l'utilité de la vengeance ou sa non-utilité, finalement.
Sur le seuil.
Sur le seuil, c'est du fantastique, c'est du surnaturel. C'est un psychiatre qui fait une enquête sur un de ses patients, un écrivain célèbre qui s'est coupé les 10 doigts et qui ne dit plus un mot. Et il essaie de découvrir pourquoi il s'est automutilé comme ça. Il va faire beaucoup d'enquêtes sur son passé. Il va découvrir des choses incroyables et à peine crédibles sur le passé de cet écrivain-là.
Oniria.
Oniria, ça, c'est une espèce de... c'est un peu un hommage personnel au film d'horreur de série B. Ça se passe en une nuit dans une maison. 4 gars s'évadent de prison. Ils vont se cacher dans une maison. Ils n'auraient jamais dû choisir cette maison-là. Ça ne dure qu'une nuit et très peu vont survivre.
Alors, 51-50, Rue des Ormes aussi, bien connu.
Oui, c'est mon premier, en fait. C'est mon premier roman. C'est un jeune qui est kidnappé par une famille. Et il se rend compte que le père est un psychopathe qui est maniaque d'échecs et qui a un sens de la justice très, très, très précis. Et il dit au jeune, tu vas pouvoir sortir d'ici le jour où tu vas me battre aux échecs, mais pas avant. Voilà.
Et puis le vide dont nous parlions un petit peu plus tôt.
Oui, le vide, ça c'est assez complexe, mais je dirais que c'est 3 histoires qui vont se rencontrer. Un milliardaire qui fait une télé-réalité complètement idiote, mais qui a un immense succès. Un psychologue qui cherche l'excitation dans les trucs extrêmes. Et un policier qui fait une enquête sur un triple meurtre. Ces 3 histoires-là vont se regrouper et donner une fin assez spectaculaire. Merci.
Et il y a Fin, évidemment, mais Fin, F-A-I-M.
Oui, ça c'est mon avant-dernier. Oui.
Ça c'est donc l'avant-dernier, ouais. Mais c'est celui qui vient de sortir en version audio adaptée.
Oui, oui, oui. Oui.
Alors, lui, j'aimerais bien qu'on prenne quelques minutes pour le présenter. Nous sommes dans une petite ville américaine.
Non. Ça se passe au Québec.
Ça se passe au Québec?
Oui, c'est proche. Tous mes livres, ça passe au Québec. En fait, c'est pas très loin de Sorel. C'est sur le bord de
l'Ayamasca. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, évidemment.
Mais je l'ai inventé.
Mais oui. Mais oui,
c'est
ça.
Le nom de la ville.
Et puis, arrive un cirque.
Un cirque ambulant.
Ouais. Mais pas n'importe quel cirque.
Non, c'est un cirque, en fait, qui fait un spectacle pour adultes seulement et qui pousse les gens, en fait, à laisser libre cours à leurs pulsions intérieures, parce qu'ils prennent pour acquis que tout le monde a des pulsions qu'on essaie un peu, évidemment, de contenir. Et ce cirque-là dit aux gens, laissez aller vos pulsions, et ça va avoir un effet sur certaines personnes du village jusqu'au point qu'il va y avoir un meurtre, alors qu'il n'y avait jamais eu de meurtre depuis 10 ou 11 ans dans cette ville-là. Alors, et le policier qui fait une enquête, lui-même a des pulsions, et d'enquêter sur ce cirque-là, ça vient réveiller des pulsions qu'il n'aime pas tellement.
Puis en même temps, il y a l'histoire de ce couple.
Oui, le policier, c'est ça.
Le policier qui est marié avec une vétérinaire. Ouais. Bon, deux ados qui sont très, très ados.
Bon, oui.
Puis, bon, ce couple-là sombre un petit peu dans une forme d'ennui,
dans le
quotidien. Voilà. Donc, en cela, c'est un livre beaucoup plus axé sur le psycho aussi et sur la vie au quotidien, en fait.
Ben, c'est l'horreur du quotidien, en fait. J'avais parlé de beaucoup de choses, de l'horreur. Et là, c'est l'horreur du quotidien. En fait, à quel point que le quotidien peut devenir horrifique. Alors, oui. C'est une réflexion, je pense. J'ai 50 ans, j'ai 49 ans, mais j'ai plein de gens autour de moi qui ont mon âge. Et on parle souvent du quotidien. Puis est-ce qu'on a été jusqu'au bout de nos rêves? Est-ce qu'on est devenu ce qu'on ne voulait pas devenir? Tu sais, le genre de réflexion qu'on peut avoir à 50 ans. Et je pense que j'avais besoin d'écrire là-dessus, de montrer qu'est-ce qui peut arriver de pire quand on arrive à cet âge-là et qu'on est devenu le contraire de ce qu'on s'était dit qu'on deviendrait. Et ça arrive souvent. Et c'est un peu ce qui arrive à ce couple-là et aux gens de plusieurs personnes de cette petite ville-là qui finalement sont frustrés de plein de trucs. Ouais.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui vous ont posé la question, qui vous ont dit, est-ce qu'il y a beaucoup de votre vie là-dedans?
Mes romans sont tellement extrêmes que non, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est des questions qu'on se pose tout le temps. C'est des questions. Moi, je suis chanceux parce que, bon, je vis de ma plume et tout ça, mais on se pose quand même ces questions-là. Bon, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis heureux avec ma femme, avec mes enfants? Alors oui, je me suis demandé jusqu'où ça pourrait aller quand quelqu'un est complètement malheureux. Et il y a tellement de gens malheureux qui n'osent pas se dire que je pense une réflexion que bien des gens de mon âge peuvent comprendre, en fait. Je pense que les ados plus jeunes, les 17-18 ans qui me lisent ou les 20 ans qui me lisent, je pense que le thème de fin peut peut-être être un peu moins proche d'eux. Oui. Alors que je pense que cela, c'est vraiment écrit par un écrivain. J'aurais pas pu écrire ça il y a 20 ans, je pense.
Non, c'est ça. Ouais. Alors, fin pour ces pulsions, justement, que vous appelez ces fins, là, finalement.
Exactement.
F-A-I-M-S.
Exact,
d'accord.
C'est ça.
Il ne nous reste plus qu'une minute et demie, ça passe vite.
Ça passe très vite.
En seconde partie, Patrick Sonécal, je vais me faire le plaisir de lire un extrait. je vais faire semblant que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. vous savez, c'est l'extrait, donc c'est la première fois que la plupart de la ville, ou en tout cas pas mal de personnalités de la ville, se retrouvent au cirque.
Oui, et, la première représentation.
Voilà, c'est la première, et je trouve que ça donne une bonne idée de ce qui peut arriver derrière. Quoi.
Exactement, exactement.
Et puis, en une minute, vous disiez que, vous, évidemment, quand vous étiez adolescent, vous vous êtes nourri beaucoup de Stephen King.
Stephen King, d'autres Lovecraft, auteurs. Edgar Allan Poe, Lovecraft, bon, tous ces auteurs fantastiques, aussi Jean Rey, Thomas Owen, qui sont moins connus, mais qui sont très, très... Oui, oui, j'ai lu tout ça, j'ai fait mes écoles.
Exactement, et c'est grâce à eux. Que vous êtes devenu le Patrick Sonnécal que vous êtes maintenant.
C'est de leur faute.
Patrick Sonnécal, je vous remercie vraiment beaucoup. On a fait le tour. Je suis contente qu'on ait fait
aussi,
le tour comme ça.
Bien content d'être venu ici.
Bon, c'est parfait, Patrick. Patrick Sonnécal, donc ruez-vous sur tous ces livres qui sont disponibles via le SQLA, le service adapté du livre adapté, et via le CAEB aussi, hein, sur l'ensemble du Canada. Voilà, c'est avec Patrick Sonnécal que se referme cette émission Le National. Merci à vous d'avoir été là. C'était Clotilde Seille qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.